Devoir de Fanny Ferreloc. Alors, ton devoir est un petit peu court, pas suffisamment approfondi en ce qui concerne l'analyse des documents, notamment le document 2, et un petit peu court du point de vue des connaissances sur la fin de la crise, sur non pas l'accord, je ne vais pas utiliser l'accord, enfin bon, ils ont trouvé un accord, oui, un terrain d'accord, une négociation, et donc sur le contenu des négociations. Et donc tu te trompes d'analyse quand tu dis que c'est en faveur de l'URSS, hein, et donc et de Cuba. C'est le contraire. Donc tu vois, ça c'est un petit peu gênant. Donc globalement, je vois que tu connais, mais tu ne domines pas tous les éléments. Puis surtout, il y a un défaut d'analyse que je trouve un peu préjudiciable quand même. Hein. Il faudrait approfondir. Alors, si nous prenons ensemble ton devoir, je suis d'accord. Alors, tu dis que les deux documents illustrent les deux grands de la guerre froide. C'est pas très bien dit, hein, donc j'ai souligné. Bon, voilà. Ils émanent tous les deux, hein, donc des deux dirigeants des pays, des deux grandes puissances qui s'affrontent dans la guerre froide, tu peux le dire comme ça. Hein. Nous sommes en octobre 62, hein, donc tu rappelles depuis quand Kennedy et Khrouchtchev sont au pouvoir. Tu dis qu'ils se sont engagés dans une guerre idéologique, bien évidemment, ils n'en sont pas à l'origine, puisque ça commence en 47, j'aurais préféré que tu rappelles ça. Hein. Celle-ci oppose, d'accord, bon, je suis d'accord. Tu insistes sur le fait que souvent cette guerre froide ne se déroule pas dans les États concernés. Mais en fait, il n'y a pas de guerre. Donc, bon, et quelquefois, il y a une guerre, guerre de Corée par exemple, guerre du Vietnam. Et dis plutôt que les tensions, si elles opposent les deux grands, concernent souvent les territoires des alliés. Hein, donc c'est plutôt ça qu'il faut dire. Et j'aurais aimé que tu insistes sur la période, hein, sachant que la guerre froide commence en 47, que jusqu'en 62, il y a de nombreuses crises de guerre froide. Celle-là est sans doute la plus virulente, on est au paroxysme, mais il y en a eu une un an auparavant, hein, qui a été particulièrement importante pour l'Europe, c'est la construction du mur de Berlin. Donc on est bien dans une série, hein, donc, de crises qui s'enchaînent depuis 1947. Hein. Il faudrait donc, oui, nous verrons donc que la crise de Cuba est une crise de guerre froide, car elle rentre dans le cadre d'une guerre indirecte, et de menaces d'image. Oui, on va voir. Alors, première partie, je suis d'accord, hein, donc c'est une véritable provocation que l'URSS fait en installant donc des missiles sur le continent américain, au cœur du continent américain. D'accord. Qu'est-ce qu'ils font? Ils installent. Alors, j'aurais bien aimé savoir ce que c'était que ces missiles. Hein. Donc, des missiles à tête nucléaire, hein, donc des ogives, qui peuvent menacer, donc qui sont intercontinentaux et qui ont une portée à peu près, hein, des missiles à moyenne et à longue portée. Là, c'est à moyenne portée, presque longue, hein, 2000 km, et qui peuvent atteindre les principales villes américaines. Donc, la menace est réelle pour le territoire américain. Sachant que cette époque-là, les deux grands sont les seules puissances nucléaires capables donc de mettre au point ces missiles intercontinentaux. Pour les autres puissances nucléaires, qui sont peu nombreuses à l'époque, ça viendra après. Et donc il y a une espèce de rupture d'équilibre un petit peu qui est opérée. Parce qu'évidemment, les Américains peuvent menacer depuis leur base de l'OTAN, hein, donc plus directement l'URSS. Mais maintenant que les missiles ont une portée importante, eh bien, je peux dire que c'est presque aucun point du globe qui ne peut leur échapper. Hein. Alors, ici, le Pentagone, tu dis qu'il lance des vols de provocation. En fait, tu reprends la rhétorique ici la rhétorique de Khrouchtchev, hein, donc attention, ce sont des vols d'avions espions, hein, qui ont découvert ces rampes donc le 14 octobre, et donc le discours très ferme de Kennedy, hein, donc est lancé. Alors sur ce discours, j'aurais aimé que tu nous montres qu'il était prononcé depuis la capitale, depuis le bureau ovale, hein, donc à la télévision, donc il s'adresse à sa population, mais il s'adresse aussi au monde entier. Et il a des preuves à donner, enfin de sa fermeté. Il faut qu'il a des gages à donner sur sa capacité à résister au bras de force, hein, qui lui est imposé. Parce qu'un an auparavant, il a autorisé une opération d'anticastriste, hein, dans la baie des Cochons en 1961. Et ça a été l'échec. Bon, et donc là, Il ne menace pas l'île d'invasion, mais presque, hein, parce qu'il répond à une provocation soviétique. Et donc on en voit une trace dans le document 2, lorsque Khrouchtchev évoque la violation des normes élémentaires du droit international par les États-Unis à ligne 11. Donc c'est sans doute un rappel à cette opération-là. Donc il faut que tu utilises les documents. Hein. Les États-Unis font preuve de dissuasion nucléaire, oui, puisqu'ils menacent il annonce la possibilité d'utiliser à regret l'arme nucléaire, hein, mais il dit bien, mais les fruits de la victoire n'auraient dans notre bouche qu'un goût de cendre, donc il montre bien que il est prêt à le faire, hein, mais nous ne nous déroberons pas devant ce risque. Voilà ce qu'il dit pendant ce discours, et il annonce l'établissement d'une quarantaine, d'un blocus, hein, donc pour empêcher les navires soviétiques d'arriver sur Cuba et de continuer l'installation des missiles. Donc on en est là, c'est le bras de force. Hein. Le bras de fer, pardon. On va passer à la deuxième partie, c'est-à-dire la négociation. Alors je pense que c'est un aspect de guerre d'image, de menace, bien sûr, hein, mais aboutissant tout de même à un accord. Alors, un accord, des négociations, hein, il n'y a pas d'accord de signé. Alors là, tu perds un petit peu de temps hein, sur, sur le discours. Les États-Unis souhaitent déstabiliser l'URSS par l'utilisation de la dissuasion nucléaire. Non, ils souhaitent répondre à la menace, hein, je ne suis pas d'accord là. Et évidemment, les Soviétiques essayent de pousser leur avantage hein, avec Cuba. Nécessité de se lancer dans une guerre d'image avec beaucoup de menaces, oui. Hein, un peu de théâtralisation, c'est pas faux en ce qui concerne le discours du 22 hein, et ce qui se passe à l'ONU aussi. La séance où des photographies hein, le 25 octobre bien sont dévoilées hein, et que l'ambassadeur soviétique refuse de les regarder hein, il n'y a pas ça dans les documents. Alors je tourne la page parce que c'est plutôt là que ça se joue. Il y a un accord, enfin une négociation, et j'aurais voulu que tu m'en montres les traces. Alors discours de fermeté de Kennedy, mais hein, il accepte de discuter hein, visiblement. Regarde, numéro 2, hein, ligne 2, notre message du 27 octobre au président Kennedy permet à la crise d'être réglée. Ligne 4, la réponse de Kennedy. Les messages des 26 et 27 octobre. Nous finissons de rédiger notre réponse au message présidentiel, ligne 7. Donc, il n'arrête pas de s'écrire et de transmettre ça rapidement aux ambassadeurs qui présentent aux uns et aux autres hein, donc les documents. Donc ça veut dire qu'ils ont engagé hein, donc la négociation. Et que se passe-t-il? Eh bien, il se passe quelque chose que tu n'as pas vraiment repéré hein, donc ici, c'est que Castro, le 27, hein, donc la lettre date du 28, a abattu un avion U-2 espion au-dessus, qui volait au-dessus de Cuba. Alors, bien évidemment, Khrouchtchev utilise les mots vol de provocation, militarisme déchaîné du Pentagone, etc. Mais tout ça, c'est pour donner des gages, cette fois-ci, à Castro. Qu'est-ce qui est plus important, ce qu'il lui dit? Et donc, on regarde ensemble. Ligne 9. Je vous recommande, à ce stade d'évolution de la crise, de ne pas vous laisser emporter par vos émotions et de faire preuve de force de caractère. Ligne 15. C'est pourquoi j'aimerais vous conseiller de façon amicale de faire preuve de patience, de fermeté, encore plus de fermeté. Ligne 20. Et on vous pousse à des actes qui pourraient se retourner contre vous. Je vous demande de ne pas leur fournir de prétexte à agir ainsi. Qu'est-ce qu'il lui dit de se calmer, de maîtriser ses nerfs et d'arrêter hein, de provoquer par un accident, enfin une décision malencontreuse, comme celle du 27 octobre, hein, lorsque la DCA cubaine a abattu un U-2, de provoquer une troisième guerre mondiale qui serait nucléaire. Hein. C'est grave. Hein, et regarde à quel point il se fait insistant. Et donc ça montre ici quelque chose qui est très intéressant et que j'aurais utilisé en troisième partie pour montrer que c'est une crise de guerre froide aussi, parce que ça nous montre bien que les alliés sont considérés comme des pions qu'on utilise, le territoire hein, de Cuba, et puis qu'on essaye de calmer on leur dit ce qu'il faut faire, hein, si jamais les choses ne tournent pas à l'avantage de la grande puissance. Et c'est ce que fait Khrouchtchev, et il lui dit attention. Et donc Castro, lui, Donc tu dis que la crise est réglée, semble être réglée à l'avantage. Bah, Khrouchtchev le lui dit, mais en fait c'est complètement faux, puisque il n'a pas de rampe de lancement, il n'a pas de missile pour le protéger. Bon, les États-Unis se sont certes engagés à ne pas envahir l'île, mais depuis la baie des cochons, l'administration de Kennedy a bien compris, sans doute, hein, que ce n'était pas la peine de le faire. Hein. Et donc, ils vont devoir vivre avec Cuba communiste au cœur du continent américain. Et puis ensuite, il dit que c'est l'URSS semble être dans, c'est toi, l'URSS semble être dans une meilleure position que les États-Unis. Pas du tout. C'est la fermeté de Kennedy, donc il l'a emporté hein, sur le coup de poker de Khrouchtchev, et finalement ce sont les deux grands capables de s'entendre, de discuter, qui ont fini par régler la crise, hein, heureusement. Et donc l'histoire ben, ne retiendra que finalement, hein, donc on a été au bord du gouffre, hein, diplomatie au bord du gouffre, et puis que les États-Unis eh bien, ont réussi à faire donc démanteler les fusées soviétiques. Voilà, hein, donc c'est surtout ça, hein, contre évidemment les promesses de ne pas envahir Cuba et de retirer les missiles de Turquie. Mais bon, on retient ça. Donc au contraire, Khrouchtchev d'ailleurs le paiera, hein, donc 3 ans après, 2 ans après, il est éliminé, il est écarté de la direction de l'URSS. Donc tu vois, c'est un petit peu ça qui te manque. Et donc je trouve que ça va pas assez loin. Hein. Donc, alors évidemment, tu termines sur la liaison, le télétype, hein, donc entre les deux grands. Mais l'analyse, c'est quoi? C'est que désormais, ils vont pouvoir discuter plus rapidement pour essayer d'éviter donc une crise. Donc c'est l'apprentissage de la dissuasion et de la diplomatie de la dissuasion. Et puis surtout, ils vont bien faire comprendre à leurs alliés, hein, pendant toute cette période de détente, que ce sont eux qui déterminent le rythme des relations internationales. Et qu'il faut d'abord en passer par eux, et que les alliés n'ont pas intérêt à manifester un peu d'indépendance. Hein, voilà. Bon, tu vois, voilà un petit peu ce qui manquait, hein, donc cette dimension-là. Cette dimension analytique, sans doute, hein, qui faisait qu'il fallait approfondir les choses. Donc, je te mets un 9 qui bon, prend en compte ce que tu savais, hein, donc ici, voilà, mais qui te pousse à envisager d'approfondir les choses, hein, pour le deuxième galop d'essai, pour être préparé pour le concours.